Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous de vous être déplacés dans cette belle journée, ce début d'été, vous enfermez dans une université technologique en plus, avec des murs en béton. C'est vrai qu'il y a un côté austère. Je tiens à vous féliciter. Alors la parité, elle est faible. Je m'aperçois que plutôt les femmes sont intéressées par les aspects économiques et d'entreprise. Voilà. Donc je vous remercie à nouveau du temps que vous allez m'accorder. Je remercie à nouveau le président. Bon, je vais me présenter juste en quelques mots très très rapidement. Et puis la présentation, elle n'a jamais été faite. Donc c'est une première mondiale. C'est une première mondiale. Elle va être faite justement dans la comparaison à la fois de ce qu'est une entreprise industrielle, même une petite entreprise industrielle qui s'appelle Escoffier, comment se développe, se redéveloppe une entreprise, et comment finalement les leviers sont plus ou moins les mêmes sur le redéveloppement ou le développement économique d'une agglomération industrielle. Je vais faire plus ou moins ce parallèle. Je vais d'abord plutôt vous parler développement économique, mais avec l'œil de quelqu'un de terrain, comme l'a dit M. Fournier tout à l'heure. Je n'ai pas le bonheur ni la chance d'avoir fait l'ENA, ni d'avoir fait Sciences Po. Moi, je viens de la base, et j'étais un mécanicien à l'origine, et qui a donc une vision de terrain des choses. Donc la présentation du plan de développement économique de Châlons, c'est une présentation que vous verrez très rarement, certainement dans d'autres villes, parce qu'elle est faite par des acteurs économiques et en partenariat avec des chefs d'entreprise qui ont travaillé sur ce sujet. Alors, je vais bien évidemment, on va parler d'Escoffier, et je vais bien évidemment ne pas oublier un de mes collègues élus, qui est Éric Mermet, ici présent, vice-président délégué au transport à l'agglomération de Chalon-sur-Saône et maire de Crissé. Et on a eu un parcours ensemble court, puisque Éric a travaillé chez Escoffier, j'ai travaillé aussi chez Escoffier. Et puis après, nos destins se sont séparés. Et puis ils se retrouvent à l'agglo. Ils se retrouveront peut-être sur d'autres sujets, dans le nucléaire. On s'est retrouvés dans le nucléaire. Voilà. Dans ma présentation sur la partie développement économique, vous êtes des amateurs et des amoureux d'histoire. Monsieur Fournier me parlait tout à l'heure de ce beau livre que vous avez fait qui explique le développement ou le redéveloppement de Chalon-sur-Saône pendant la deuxième révolution industrielle. Et en quoi, à l'époque, Chalon-sur-Saône s'est trouvé éclairé de par ces développements, et je vous montrerai les relais, les leviers vers lesquels nous tentons d'aller pour à nouveau amener Châlons vers l'avenir. Bon, j'ai passé 50 ans depuis déjà quelques années, depuis 4 ans. Je suis un entrepreneur, finalement pas un industriel, un entrepreneur, de formation technique, mais d'une petite école d'ingénieurs où pour assister aux cours, vos parents vont payer, parce que tellement l'élève, il n'est pas bon qu'il faut en arriver là. Donc j'ai fait des études d'ingénieur assez médiocres, et puis je suis rentré en multinationale américaine, et en fait j'ai appris mon métier d'ingénieur sur le terrain. J'avais eu une formation auparavant, je m'étais essayé à la natation, j'ai failli faire une carrière dedans, mais j'ai commencé trop tard, j'ai commencé le jour de mes 20 ans à apprendre à nager. Et c'était pas suffisant pour devenir un athlète de haut niveau quand on commence à apprendre à nager à 20 ans. Bon, un an après, j'étais maître nageur et j'ai entraîné des clubs de natation pendant de nombreuses années jusqu'en sport-études. Et vous verrez dans mes propos, il y a des leviers qui existent entre le développement sportif, développement des entreprises, développement d'une agglomération. J'espère qu'il n'y a pas de Bressan dans la salle, parce que certains connaissent mes ambitions sur la Bresse. Vous êtes Bressane, madame, alors vous répéterez pas ce que je vais dire là, je vous en supplie. Je suis pas Bressan d'origine depuis 1530. Voilà. Je suis arrivé sur la Bourgogne avant de venir de la région de la Bretagne et du nord de la France. Et donc je suis arrivé en Bourgogne après avoir fait un court parcours dans une entreprise américaine qui s'appelle Allied Signal. Alors je ne saurais même pas vous dire les dizaines, pas dire les centaines de milliers de salariés qu'il y avait dans cette entreprise. Je n'ai jamais connu le nom du patron. Et je suis arrivé travailler dans une petite entreprise à Beaune, s'appelle Bobard, dans les tracteurs enjambeurs. L'entreprise a eu quelques difficultés. Je l'ai restructurée. J'ai eu l'occasion de la remettre en route. Et puis voilà Monsieur Lefebvre. Voilà Monsieur Joël Lefebvre, qui avait dit qu'il allait venir. Merci Joël de ta présence. On a attendu. Est-ce qu'il va venir? Et puis on a quand même démarré. Et puis donc, il y a quelques années, j'ai repris une première entreprise à Mâcon de location de chariots élévateurs. Puis une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Aujourd'hui, dans le réseau Galilée, si tant est que ça soit un groupe, il y a aujourd'hui une quinzaine de sociétés qui se trouvent être plutôt des entreprises du monde de l'industrie, dont Escoffier, à Chalon-sur-Saône, une entreprise qui a été reprise il y a 5 ans maintenant, en 2009, de mémoire. Je parle sous le contrôle d'Éric. Et puis depuis, j'ai repris d'autres sociétés, mais avec une équipe autour de moi d'ingénieurs, de techniciens, de financiers. La dernière qu'on a reprise, c'est une très belle entreprise, et vous pourriez faire un très beau sujet là-dessus. C'est la société Farman, Henri et Maurice Farman, fondateurs de l'aéronautique dans le monde. Avec les avions Farman, on a tout un projet de recréer un avion Farman de la guerre 14, qui a fait les premières compagnies aériennes au monde ont été les compagnies aériennes Farman, puis qui a été nationalisée, qui est devenue Air France. Enfin, je peux faire toute l'histoire de Farman, parce qu'à travers l'histoire de Farman, on ferait l'histoire de la France industrielle, comme d'ailleurs on pourra la faire de la même manière.
Je prends la
compte. Ben là, il y a un truc. J'étais encore, il n'y a pas longtemps, pour vous dire, avant-hier, j'étais avec Olivier Dassault. Il m'a reçu à l'Assemblée nationale, on a parlé de Farman, et Marcel Dassault, son premier job, ça a été chez Farman pour les essais en vol, et il a travaillé sur les hélices d'avion, des hélices en bois, d'où Maurice Dassault a créé l'entreprise qui s'appelle Hélice Éclair, ça a été la première entreprise de Dassault, et qui est devenue, jusqu'à ses derniers succès économiques et industriels. Voilà, donc aujourd'hui, on est un petit groupe industriel, faut rester humble, d'environ, on est un peu... à peu près 400. En fin d'année, on devrait être vers les 550-600 à la fin d'année. Et le chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe fait entre 50 et 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un groupe alors qui n'est pas endetté, zéro dette, pas de dette, qui fonctionne correctement. Les banquiers n'ont rien à voir chez nous. Ils ne m'apprécient pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Je leur vaux bien. Voilà, donc rapidement. Alors, je suis maire d'Épervent, du plus beau village de Saône-et-Loire. Autant le dire, il est à l'entrée de la Bresse, président délégué à l'économie, et j'ai la chance d'être marié encore quelques temps, je ne sais pas combien de temps ça va durer, avec mon épouse, qui me supporte, mais de plus en plus mal, il faut bien reconnaître, vu le temps que je peux passer ici et ailleurs, et passionné par le monde industriel et indirectement par la politique. J'ai 3 enfants qui, eux-mêmes, s'orientent vers la reprise d'entreprise. Voilà. Très rapidement. Alors, sur le projet de développement économique, oui, j'en parlerai sur la partie numérique, mais on a une force incroyable à Chalon-sur-Saône, c'est la métallurgie, c'est ce qu'on a tissé, usiné, soudé depuis des années et des années. Le projet de développement économique qui a été mis en œuvre, il a été étudié grâce à des chefs d'entreprise. On a réuni un groupe d'entrepreneurs qui connaissent bien le terrain. Et puis, on a fait l'analyse comme on ferait une analyse dans une entreprise, les forces, les faiblesses, les opportunités et le territoire de Chalon, comme si c'était une entreprise qui devait se développer vers un monde qui bouge. Donc à la fois, il faut avoir la vision de ce monde qui bouge, vers où va-t-on, quel est ce monde en mouvement, pour quelle génération, pour quel avenir, et puis connaître son passé, bien évidemment, et puis connaître les avantages et les forces d'un territoire, puisque c'est comme ça qu'on dit, d'un territoire. Et d'ailleurs, le premier point de comparaison entre le développement ou le redéveloppement d'une entreprise, le développement ou le redéveloppement d'une agglomération, ou alors le développement d'un athlète, quel qu'il soit, d'ailleurs même pas un athlète, quelqu'un qui va faire du sport, c'est qu'on doit toujours tenter d'avancer sur les points forts. Il faut toujours avancer sur les points forts. Si certains aiment le tennis, je prends le cas du tennis, et que vous êtes professeur de tennis, ça sert à rien quand vous avez un élève qui a du mal à faire un revers, de continuer à lui faire faire des revers, parce qu'il n'y arrivera pas plus, vous allez le mettre en position d'échec, et donc là, il arrêtera. Donc il faut au contraire travailler sur ses points forts. Si son point fort, c'est le coup droit, à ce moment-là, il faut le faire travailler sur le coup droit, puis on travaillera à côté le revers. Et il se mettra en état de confiance, et la confiance de la confiance et la réussite. Donc un point important, c'est toujours quand on développe quelque chose, on développe sur les points forts, et d'ailleurs, je vois un ami entrepreneur là-haut aussi, Toutes les belles entreprises qui se sont développées se sont toujours développées sur leurs points forts. Ça sert à rien de développer une entreprise sur ses points faibles, parce que de toute façon, vous allez mettre les salariés dans une mauvaise position, dans une position d'échec, et à force de leur raconter qu'ils sont nuls, ils vont finir par le croire, et vous allez amener l'entreprise vers le bas. Donc on a toujours plus ou moins ces mêmes points qui font qu'il faut toujours se développer sur des aspects positifs, que ce soit dans le sport, dans l'économie ou dans le monde de l'entreprise. Alors je vais vite passer sur le premier point, qui est des points finalement, compte tenu du temps qui est imparti aux alentours d'une heure, je ne vais pas rentrer dans les détails du développement économique pur de Chalon, mais plutôt de ce vers quoi on avance. Dans notre volonté de développer ou de redévelopper l'activité de Chalon-sur-Saône, je vérifie bien que c'est la même chose sur l'écran. C'est pareil, hein, ça marche. On a fait l'état des points forts et des points faibles de l'agglomération de Chalon-sur-Saône en termes de développement économique. En l'occurrence, Chalon-sur-Saône bénéficie, entre autres, de quatre points forts, ou tout au moins quatre axes de développement, qu'on a appelés des filières. Alors déjà, qu'est-ce que veut dire le mot filière ? La filière, elle a un sens. La filière, elle a un sens, c'est un sens business. C'est-à-dire, le but de cette filière, c'est de gagner de l'argent. C'est que le système doit gagner de l'argent. Alors, veuillez me pardonner des propos un peu rapides en la matière, c'est l'ancien président du MEDEF qui parle. Alors on dit, voilà, un président du MEDEF qui parle d'argent, gagner de l'argent. Alors c'est pas grave de gagner de l'argent, au contraire, le monde de l'entreprise est là pour ça. La question qui se pose quand on gagne de l'argent, c'est la question de la redistribution. Les entreprises sont là pour gagner de l'argent. Et il faut pas avoir honte de le dire. L'emploi et le développement de l'emploi, c'est jamais que la résultante d'un développement économique. Vous aurez très peu de chefs d'entreprise qui va vous dire « je développe une entreprise pour créer de l'emploi ». C'est caricatural ce que je dis là, mais c'est la vérité. Si vous, aujourd'hui, vous voulez gérer des problèmes d'emploi, vous montez l'association La Mission Locale, vous faites une association diverse et variée, vous allez gérer de l'emploi. Une entreprise est là pour gagner de l'argent, et c'est parce qu'il y a une dynamique économique qui s'installe que vous allez installer une dynamique de l'emploi. Et c'est quand même important de le dire, pourquoi ? Parce que dans des aspects un peu macroéconomiques, quand on met des milliards d'euros à imposer l'emploi par des artifices de aider des jeunes d'une certaine manière à entrer dans l'entreprise en subventionnant l'accueil des salariés dans l'entreprise, dans des administrations, en fait, vous utilisez de l'argent au mauvais endroit. Il faut l'utiliser plutôt à mettre en route la dynamique économique. Et parce que vous allez mettre en route la dynamique économique avec les moyens financiers que vous allez mettre en route, vous allez générer l'emploi. Parce que moi, je le vois, tous ces emplois qui sont créés de manière artificielle, souvent, c'est des emplois qui durent pas et vous créez beaucoup de ressentiment chez les jeunes. Donc, un système économique, et notamment une filière, elle est là pour gagner de l'argent. Et quand on crée de la richesse, eh ben, on va créer de la richesse financière, évidemment, mais à travers ça, de la richesse sociale, de la richesse sociétale, de la richesse culturelle. Donc, dans l'approche du redéveloppement économique de Chalon, on a bien défini des filières qui ont un but important, c'est que le système gagne de l'argent. La filière, elle s'entend avec quatre points importants. Je le dis parce que j'ai cru voir des gens du PNB. Je ne sais pas si c'était pas au PNB, non ? T'y es pas ? Le pôle nucléaire de Bourgogne n'est pas une filière, est un pôle de compétitivité qui a pour vocation et pour fonction de mettre en réseau des grandes entreprises, des petites entreprises pour les faire aller vers le monde de l'innovation. Donc c'est pas ce qu'on est en train de faire. Quand on crée une filière comme la filière métallurgie, on y verra tout à l'heure, il faut que dans la filière, on l'a définie en quatre points, il y ait des grandes entreprises qui soient des leaders. Vous les connaissez, sur Chalon, les grandes entreprises, même si aujourd'hui certaines ont des difficultés, les grandes entreprises, c'est Areva. Saint-Gobain, une grande entreprise de la métallurgie, même si elle fait du verre, mais la réalité, c'est que c'est de la métallurgie. On utilise tous les procédés de la métallurgie pour faire des bouteilles en verre, ou des pare-brises, ou chez Seva, des Sevax. Donc, il faut des grandes entreprises, il faut des petites entreprises qui vont travailler en réseau autour de ces grandes entreprises, ou dans ce qu'on appelle des clusters, donc des grandes entreprises, puis des grappes de petites entreprises s'appellent des clusters, comme par exemple, on a un cluster où on est leader en France, et on le sait pas à Chalon-sur-Saône, s'appelle le cluster des contrôles non destructifs. Contrôle non destructif, comme le nom l'indique, c'est je vais contrôler quelque chose sans le détruire. Je suis pas obligé de le casser pour vérifier qu'il était bon. Je le contrôle grâce à des systèmes d'ultrasons ou des choses comme ça. Et on a aujourd'hui à Chalon-sur-Saône un des meilleurs systèmes de contrôle non destructif. Donc ça s'appelle un cluster. Et dans cette filière, on va y ajouter aussi l'enseignement supérieur et l'enseignement professionnel. Parce que vous ne serez pas capable de développer l'économie si vous ne développez pas l'enseignement. On viendra tout à l'heure sur la fin de mes propos, je vous parlerai d'aller vers l'agglomération, la ville de la connaissance. Ça veut dire qu'on va devoir développer l'enseignement supérieur, développer l'université, mais en même temps aussi développer la formation professionnelle. C'est un des gros problèmes de notre pays et c'est un des gros problèmes de l'agglomération, le développement de l'enseignement professionnel. Et puis, enfin, il faut aussi des centres de recherche. Alors une filière, elle est faite de ces quatre points. Et aujourd'hui, on a identifié à Chalon-sur-Saône, à travers cette équipe d'entrepreneurs, quatre filières. La première, c'est la filière de la métallurgie. Cette filière-là, elle est historique. Vous l'avez d'ailleurs très certainement bien décrit et son histoire est connue ici depuis maintenant plus de 150 ans, Monsieur le Président. La métallurgie à Chalon-sur-Saône, ça a été un des berceaux de la métallurgie en France, pour ne pas dire en Europe, entre le Creusot et le bassin de Chalon, grâce au Schneider. Et la métallurgie a permis le développement économique de notre pays pendant de nombreuses années, comme aujourd'hui le numérique, et on en parlera à la fin de mon propos, va redévelopper et remettre en route, en mouvement, l'économie. Donc la métallurgie, avec des grandes entreprises, Areva, des centres de formation, que ce soit des universités ou alors des centres de formation professionnelle à travers les CFAI, des réseaux de PME. La deuxième filière dont je vais vous parler, c'est la filière de la logistique. Et plus particulièrement, la logistique qu'on appelle la logistique 2.0. Alors, qu'est-ce que c'est que la logistique 2.0 ? C'est la logistique où sont stockés dans d'immenses bâtiments des produits qui vont être vendus grâce à Internet avec des ouvriers ou des opérateurs qui sont à l'intérieur et qui travaillent dans le stockage. C'est pas du stockage statique où on stocke des palettes dans d'immenses hangars et il se passe rien. À l'intérieur de ces entreprises, il y a une vie. Alors je vais vous donner un petit focus, parce que le temps est compté quand même, un petit focus sur la filière de la logistique 2.0 et en quoi, parce qu'on travaille en mode filière et parce qu'on connaît nos avantages concurrentiels, on a réussi à faire venir une entreprise qui s'appelle Rhenus, vous en aurez entendu parler très certainement dans les médias, et qui travaille elle-même pour un leader mondial dans la distribution des produits pour les animaux, qui s'appelle Zooplus. Chalon-sur-Saône, donc on a défini la filière de la logistique, dont je reviens, filière de logistique des grandes entreprises. Alors vous avez Amazon, vous avez Rhenus, vous avez Gaillon, vous avez Sobotram, je ne voudrais surtout pas oublier mon ami Bruno Nera. C'est des grandes entreprises. Il existe beaucoup de PME autour qui travaillent dans des spécificités, transport de produits dangereux, transport rapide, messagerie. Il existe des universités, c'est l'exemple ici, l'IUT de la logistique qui tente à se développer. Et puis il existe plus ou moins de la recherche autour de tout ça. Donc c'est une filière. Et dans notre travail à l'agglomération, on a défini pour chacune des filières quatre avantages concurrentiels. C'est-à-dire que nos commerciaux de l'agglomération qui sont en charge de vendre le Grand Chalon sur toute la planète idéalement pour faire venir des entreprises, et je vous garantis que c'est pas facile, il faut leur dire à nos commerciaux, c'est le parallèle avec le monde de l'entreprise, eh bien le produit que tu vas vendre c'est Chalon-sur-Saône et c'est la logistique à Chalon-sur-Saône, il y a quatre avantages concurrentiels et avec ça, t'es le meilleur, il n'y a pas à dire, il va falloir que tu trouves des entreprises qui s'installent chez nous. Quels sont les quatre avantages concurrentiels finalement de la logistique 2.0, c'est la logistique qui se raccroche au numérique et à l'internet? C'est point numéro un, un positionnement géographique de Chalon-sur-Saône entre Paris et Lyon, qui est unique puisqu'on a aujourd'hui la première zone d'activité en capacité de se développer sur cette partie-là de la France, entre Paris et Lyon, c'est pratiquement la plus grande zone qui peut se développer. Alors j'ai très rapidement, tout à l'heure, passé sur un slide qui parlait d'aménagement du territoire, qui est un peu moins sexy, mais on a aujourd'hui ouvert une très très grande part de 80 hectares qui sont ouverts dans la zone Saône-et-Or et pour lequel on est en train de mettre en œuvre un raccordement autoroutier de telle manière à ce que cette zone soit directement raccrochée à l'autoroute. Alors là, c'est le travail de mon président Sébastien Martin que j'admire évidemment, et qui aujourd'hui est en train de travailler pour tenter d'avoir ce troisième échangeur autoroutier sur Chalon pour directement aller dans la zone d'activité qui permettra le développement de notre activité commerciale grâce à l'aménagement du territoire. Point numéro un, le positionnement géographique idéal entre Paris et Lyon. Point numéro deux, on l'a dit tout à l'heure, toute une filière organisée autour de la logistique, que ce soit des universités, des professionnels. Point numéro trois, une qualité, et ça c'est quelque chose de très très important à savoir à Chalon-sur-Saône, une qualité d'opérateurs et d'ouvriers rare, avec des gens d'un sérieux qu'on n'imagine pas, d'un aspect très professionnel. Ce sont des gens qui viennent beaucoup de mondes ruraux. Bon, je parlais de la Bresse tout à l'heure, des gens qui viennent de la Bresse, qui savent encore ce que ça veut dire la valeur du travail. Ou des gens qui peuvent venir du Creusot, qui sont des familles d'ouvriers, qui ont ces valeurs-là. Alors ça peut vous paraître, vous, anodin, parce que vous le vivez. Mais la réalité, c'est quand vous travaillez dans les grandes villes, tout ça, ça s'est oublié, la valeur travail. Chez nous, non, ça s'est pas oublié. Moi, j'avais un associé, j'ai monté une activité dans de la coupe de tubes, à Alésia, à Venard-et-les-Laumes, et j'étais associé avec un Italien. Et alors, il était épaté de l'usine qu'on avait montée à Venard-et-les-Laumes, et qui me dit, Eric, le matin à 8h, quand on ouvre les portes, tout le monde est là. Tout le monde est là. Alors, ça paraît une banalité de dire ça, mais n'empêche que c'est rare en Europe, même en Allemagne. On fait toujours l'exemple, l'Allemagne, oui, ok, d'accord, l'Allemagne. Mais en France, on a une très bonne qualité. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qu'a fait décider Rhenus à s'installer à Chalon-sur-Saône. Enfin, le dernier élément qui est très important dans le cadre de la logistique 2.0, c'est que vous devez être capable, par rapport à un point donné, donc Chalon-sur-Saône, de pouvoir couvrir en moins de 24 heures un maximum de consommateurs. Et en l'occurrence, à Chalon-sur-Saône, en moins de 24 heures, on va couvrir près de 60 millions de consommateurs, depuis Chalon jusqu'à Tours, en allant jusqu'à Paris, en commençant à frôler l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et tout le sud de la France. Et ça, c'est une force, surtout dans ces produits qui nécessitent une rapidité de livraison des clients. Aujourd'hui, je crois que c'est pratiquement 5 milliards à 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires que font toutes les grandes entreprises de logistique vente sur Internet. Donc c'est devenu un des moteurs de l'économie. Et on était en concurrence avec Lyon. Et on a dit à ce directeur, mais monsieur, peut-être qu'à Lyon, vous êtes au centre de quelque chose, mais quand vos camions vont devoir sortir de la banlieue de Lyon, ils vont mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors que sortir de la banlieue de Chalon-sur-Saône, même si on a pu se faire des gorges chaudes sur les encombrements de centre-ville, c'est pas ça qu'empêche la logistique 2.0 de fonctionner. Donc ce qui veut dire que Chalon-sur-Saône aujourd'hui a un avantage concurrentiel sur la capacité que cette ville a à permettre de livrer au moins de 24 heures 50 à 60 millions de consommateurs. Voilà. Donc je voulais quand même vous faire ce petit éclairage pour vous dire qu'on a véritablement des points forts sur Chalon et les équipes qu'on va mettre en œuvre, on les met en œuvre en disant voilà les points forts et c'est ça qu'il faut que tu vendes. Alors le fait de définir correctement la notion de filière, cette notion-là, ça nous permet après d'adapter l'outil. C'est-à-dire que à Chalon-sur-Saône, les outils comme l'ADERC, dont vous avez entendu parler pour le développement économique, qui sont maintenant fusionnés avec les services économiques, eh ben ils sont plus organisés comme c'était dans le paravent de manière transversale, c'est-à-dire un dossier d'entreprise, il passait de bureau en bureau jusqu'à peut-être réalisation. Là, c'est un travail en filière, c'est-à-dire qu'on va avoir des spécialistes qui vont travailler. Dans la métallurgie, on aura certainement de la prospection qui se fera dans les grands salons de la métallurgie. Voilà. Alors, le point numéro... Alors, je vous parle de la quatrième filière, qui, à mon sens, est une filière, mais moyennement. Je vais vous dire pourquoi. C'est la filière de ce qu'on a appelé l'art de vivre. Ici, c'est vigny et viticole, mais c'est, d'une manière générale, plus l'art de vivre. On l'a installé parce que c'est un avantage concurrentiel de Chalon-sur-Saône, mais dans la présentation qui a été faite à l'agglomération s'agissant de ce projet de développement économique, vous êtes dans les rares à l'avoir vu. Il y a seulement eu 2 présentations, et la troisième présentation se fait ici, du développement économique, et se fera aussi dans les réseaux d'entrepreneurs. On a une filière qui est l'art de vivre, mais la plupart des villes de moyenne importance provinciale ont toutes l'art de vivre. Alors on me dit, oui, mais il y a la rivière, il y a la Saône. Enfin, vous allez voir... La plupart des villes qui se sont développées se sont toujours ou souvent développées sur une rivière. vous n'avez pas beaucoup d'exemples différents de ça. Oui, mais enfin, on a un centre-ville historique. Bah, j'ai dit oui, mais enfin, la France, elle a 2000 ans, un centre-ville historique. Pratiquement tout le monde a un centre-ville historique. Oui, mais on a le vin et les fromages. Enfin, bon, la plupart des villes, même vous allez voir, ont le vin. Pratiquement, les fromages ont la gastronomie. Mais, et là, Gilles Platret, à juste titre, m'a repris. Alors, bien, à nouveau, je l'admire parce qu'il est le maire. Voilà. Il m'a dit oui, mais c'est rare une ville qui possède tout ça. Alors, j'ai dit oui, Gilles, t'as raison. Possède tout ça, donc c'est une chance extraordinaire pour Chalon-sur-Saône. En l'occurrence, ça n'est pas un avantage concurrentiel qui fait la différence. C'est important de l'avoir, parce que si on veut faire venir des gens, il faut quand même qu'il y ait le plaisir de vivre à Chalon-sur-Saône. Mais c'est quelque chose à travailler, notamment sur toute la partie touristique, on le verra à la fin. Enfin, je garde le meilleur pour la fin, c'est l'ingénierie numérique, l'image et le son. Et ça va me permettre à ce moment-là de vous faire un petit éclairage sur l'évolution de l'industrie. Et pourquoi Chalon-sur-Saône aujourd'hui a une carte à jouer majeure, je dis majeure, c'est peut-être si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui de nos entretiens, ça doit être ça, c'est ce monde qui est en train de bouger très rapidement à travers tout ce qui touche le numérique, les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le big data. Je vais prendre un peu de temps pour vous éclairer parce que la question qui est en train de se poser véritablement, d'ailleurs, que ça soit pour des entreprises, on reviendra sur le cas d'Escoffier tout à l'heure très rapidement, ou que ça soit pour une agglomération, c'est comment on va passer en mode numérique. Comment on va utiliser ce monde qui bouge au profit des entreprises, comment elles vont devoir se rénover, et de la même manière, comment l'agglomération de Chalon-sur-Saône va devoir elle-même passer dans ce mode numérique. Alors, je vais faire un petit parallèle entre ce qui est en train de se passer, donc je parle sous le contrôle d'historien. Je vais faire attention de ne pas dire trop de bêtises, entre le développement de la deuxième révolution industrielle, vers 1885 jusqu'à 1900, et puis finalement ce qu'on est en train de vivre. En 1885-1900, il y a une crise qui est énorme. Ça a été une crise bien plus importante que celle qu'on a connue ces dernières années. C'est véritablement une mutation de la société. Le monde est en train de bouger, les États-Unis se développe, notamment à travers l'agriculture. L'agriculture américaine prend le pas sur notre agriculture qui est plutôt de la paysannerie, de petites exploitations. À l'époque, 80% des salariés sont des salariés attachés à l'agriculture. Et notre agriculture est en train de tomber. L'agriculture américaine supplante toute l'Europe. Et puis, toutes les industries de l'époque sont en train de se casser la figure en France. C'est le moment de toute la construction des boulevards du Paris haussmannien qui coûte beaucoup d'argent. Ça coûte une fortune. Les banques déposent le bilan. La bulle est économique. Elle est financière de la même manière. Vous prendriez, j'espère que c'est la bonne conjugaison, les journaux de l'époque et vous liriez ce qui se dit. Vous retrouveriez, et on se cherche la difficulté à ce qu'on vit là. C'est-à-dire ce qu'on a vécu, des banques qui sont en train de tomber, une industrie métallurgique en particulier qui est en train de tomber au profit de ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire les grands pays en développement, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui se développent à une vitesse incroyable. Mais pendant que tout est en train de tomber, pendant que la société est en pleine mutation, eh bien, il y a une économie qui est en train de se mettre en œuvre. Et particulièrement en France. Une économie qui est tournée vers l'électricité, l'électromécanique, l'aéronautique. Je vous parlais de Farman, 1895-1900, c'est vraiment les prémices de l'aviation, jusqu'en 1905-1908, puis après, quelque chose qui se développe bien mieux. Le téléphone qui se développe à l'époque. À l'époque, on dit le téléphone, et quand on parle du téléphone, aujourd'hui, on ne comprendrait même pas que ça existe, ça puisse ne pas exister. Et pour les gens de l'époque, c'était « Mais quel est cet objet qui nous sonne ?» Qu'est-ce que ça veut dire ?« Quel est cet objet qui nous sonne ?» L'électricité qui va modifier le monde, il n'est ni plus ni moins qu'un jeu dans les réunions de bourgeoisie locale où on se fait des frissons à se prendre des petites décharges électriques. Le pétrole démarre et en fait, tout le développement économique de cette époque, il est lié à l'énergie. C'est parce qu'on va bénéficier de l'énergie dans des conditions énormes, que ce soit à travers le charbon, la vapeur, que ce soit à travers le pétrole et le moteur à explosion, que ce soit à travers l'électricité, qui a finalement donné une force supplémentaire à l'homme. Et c'est en France que ça se passe particulièrement. L'électrification d'une des premières villes se fait à Paris, et c'est de là qu'on appelle Paris Ville Lumière, la Tour Eiffel, l'exposition universelle 1900, mais il y a eu celle de 1800 et quelques. Voilà, voilà. Donc l'économie est en train de redémarrer. Personne ne la voit, cette économie. Pourquoi ? Parce que c'est de passer de ce qui s'appelle l'utilité, enfin de l'innovation, donc de l'invention de l'innovation, à l'utilité. Aujourd'hui, il y a plein d'innovations, plein de choses extraordinaires qui se créent, mais on n'a pas trouvé l'utilité. Comme je vous disais tout à l'heure, le téléphone. En 1890, qu'est-ce qu'on va faire de ce machin qui nous sonne pour appeler qui ? Évidemment, c'est une innovation, mais elle n'a pas trouvé son utilité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est important, véritablement, ce qui est en train d'arriver dans l'économie, c'est qu'à travers le numérique, à travers les réseaux sociaux, à travers cette nouvelle manière de consommer, puisqu'aujourd'hui, on ne consomme plus des biens, mais on consomme des liens. C'est-à-dire, on est rentré dans le monde non pas de la possession, je ne cherche pas à posséder une voiture, mais je cherche l'utilité d'une voiture. Et d'ailleurs, il y a des réseaux qui se mettent de covoiturage. Vous entendrez peut-être parler de sociétés comme Blablacar. C'est du covoiturage où vous avez une voiture que vous mettez en partage. On est dans ce qu'on appelle l'économie du partage. C'est une nouvelle manière d'aborder les choses, une nouvelle manière même de concevoir. Quand on imagine, aujourd'hui le Rafale qui a été imaginé comme d'ailleurs l'Airbus A380. C'est ce qui fait la force de l'aviation en France. C'est la capacité de faire travailler en réseau à travers des partages, la création d'un produit comme un avion. Aujourd'hui, chacun, c'est pas un ingénieur qui définit un avion, puis après des sous-traitants qui travaillent derrière pour faire les pièces de l'avion, c'est que tout ça, ça se crée de manière collaborative. On invente de manière collaborative. Je vais vous prendre un exemple. Prenons le cas du jus de citron. On pourrait le décliner sur n'importe quel autre produit. Et je me souviens... Quand ma grand-mère elle me faisait du jus de citron, elle me coupait le citron, on avait une espèce de pressoir, alors tout simple. Puis quand on allait au café, il y avait le pressoir électrique. Alors j'étais merveilleux de voir qu'on mettait les citrons et les oranges là-dessus. Et on sortait du jus de citron. Puis après, on a fait l'innovation, c'est-à-dire les jus de citron, on les a mis dans les bouteilles. Alors c'était moche. On avait une espèce de truc noirâtre en bas, donc on vendait du jus de citron en bouteille. Puis après, on a dit, on va refaire une boîte en plastique et on va... vendre le citron dans des petites fioles en plastique. Et puis maintenant, il y a une innovation qui est sortie, il y a quelqu'un qui a dit, et si finalement, on ne reprenait pas un citron, puis on y mettait une pipette. Donc on met une pipette, puis on appuie sur la pipette, et ça sort du jus de citron. Alors cette innovation, elle a été faite, c'est pour vous dire, c'est quelque chose de tout simple, c'est une approche collaborative de centaines de personnes, d'ingénieurs, qui ont travaillé sur cette pipette. Et à la fois, eux, Ils sont capables d'être à la fois les utilisateurs, le service marketing, et à la fois les concepteurs. Et ils se mettent en réseau pour imaginer quelque chose. Donc on va vers l'économie des réseaux. On va vers l'économie de la fonctionnalité. Et ça, c'est très très important. Et c'est véritablement une orientation importante qui est en train de se faire. Et la France, elle est finalement pas si mal placée dans tout ce qui touche les innovations. Même d'ailleurs dans les télécoms. Il faut quand même se rappeler que le Minitel a été inventé en France il y a une trentaine d'années. Et on reste assez bon dans tout ce qui touche autour des télécoms. Voilà. Alors je vous dis ça pourquoi ? Alors j'étais un peu long, mais ça nécessitait, vous m'en excuserez, c'est qu'à Chalon-sur-Saône, on a un avantage. Mais alors par rapport à toute la Bourgogne, même élargie maintenant, c'est que c'est chez nous qu'a été inventée la photographie, a été inventée l'image. Et donc on a cette légitimité aujourd'hui de passer... de dire, l'image s'est inventée chez nous. C'est Nicéphore qui a inventé la photographie, il y a plus de 200 ans déjà. Et c'est quelque chose, en fait, qui nous fonde, parce qu'on a la légitimité aujourd'hui à Chalon, sur toute la Bourgogne, de dire que l'image qui se raccroche au numérique, ça doit se passer à Chalon-sur-Saône. Et d'ailleurs, vous avez un laboratoire qui s'appelle Nicéphore Cité, qui a été développé il y a une quinzaine d'années, où les premiers systèmes de ce qu'on appelle la réalité augmentée, la réalité virtuelle, je ne vais pas m'étendre sur cette technique-là, vous entendrez parler dans le futur, ça touche autour du monde de l'image, du monde du numérique, la première machine qui a été installée en France, qui s'appelle le CAVE, a été installée à Chalon-sur-Saône il y a 15 ans. Et on a développé au fur et à mesure des années, pas suffisamment, pas assez rapidement, tout ce qui touche autour du numérique et de l'imagerie. Mais à Chalon-sur-Saône, il y a déjà eu pas mal de petites entreprises qui sont nées de tout ça. Et d'ailleurs, on a à Chalon-sur-Saône l'Institut Image, grâce aux arts et métiers. On a donc aujourd'hui une légitimité, et on l'utilise, et aujourd'hui je me bats avec ça, de dire que le numérique, qui à ce point, comme j'ai pu tout à l'heure vous en faire l'exemple, vous montrer l'importance du numérique, eh ben, faut que ça se passe à Chalon pour le futur. Ça ne doit pas se passer à Dijon. Je ne dis pas qu'il y a une concurrence avec Dijon. Bien évidemment qu'il n'y en a pas de concurrence avec Dijon. Mais enfin, bon, si ça se passait à Chalon, ça serait quand même pas si mal. Donc il faut qu'on plante à Chalon-sur-Saône, et vous m'entendrez le redire de nombreuses fois, le fanion du numérique. Parce que c'est grâce au numérique qu'on va être capable de remettre en mouvement l'économie. Et en ces termes-là, on va très certainement, et vous êtes les premiers à le savoir, obtenir un label qui s'appelle le label French Tech, c'est-à-dire certaines agglomérations vont obtenir des labels de l'État disant leur qualité dans le domaine du numérique. Et Chalon-sur-Saône va certainement obtenir le label French Tech accélérateur pour tout ce qui touche autour des start-up et des PME. Voilà. En ce sens, on a donc une filière à Chalon-sur-Saône qui est la filière du futur, la filière de l'image et du son. Et on a, quand on regarde et qu'on s'intéresse à ça, on a aussi une école d'art très importante qui est capable de se greffer à cette évolution. Alors pour terminer, parce que je pourrais encore vous en parler très longtemps et je vais vous ennuyer avec mes développements économiques, je vais juste terminer sur et l'économie, finalement l'économie et le numérique par rapport à l'agglomération elle-même. Parce que quand on parle du numérique, il ne faut surtout pas rester dans l'aspect purement technique ou purement technologique, comme si le numérique n'était attaché que pour les entreprises. En fait, il faut qu'on soit capable de se mettre et de mettre l'agglomération, d'une manière générale, en mode numérique, en mode data system. Alors je reviens sur ce mot data system, vous allez en entendre encore parler beaucoup. Comme en 1900, début du XXe siècle, on a puisé dans le sol du Texas du pétrole pour faire vivre l'économie, pour développer l'économie. Et c'est grâce à ce pétrole, à cette énergie, qu'on a été capable de développer une économie pendant 150 ans. Dans le futur, on va puiser dans ce qu'on appelle le data system, c'est-à-dire toutes ces informations qu'on agglomère. On va puiser l'information pour en sortir des nouvelles applications. Et en fait, dans l'économie, il y aura deux tuyaux. Il y a le tuyau de l'énergie et il y aura le tuyau de l'information et du numérique. Et en fait, ce sont des... Je suis content que vous soyez revenu quand même. Je t'ai dit, je le fâchais, il est parti, monsieur. Donc on va développer dans l'économie, alimenter l'économie avec toutes ces informations. Et d'ailleurs, voilà l'outil du futur, c'est le smartphone, où pratiquement toute l'information passe dedans. Alors je ne vais pas rentrer sur tous les applicatifs possibles, vous pourriez faire une conférence là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais en ce sens, c'est très, très important que Chalon se positionne comme un des acteurs régionaux majeurs là-dedans. Alors l'agglomération, on veut l'avoir en mode numérique. Et là, je reviens un peu sur le monde de l'entreprise. Parce que quand on veut développer une entreprise, je parle sous le contrôle d'amis entrepreneurs, il faut avoir ce qu'on appelle une ambition. Là, j'ai une ambition. Mon entreprise, je voudrais qu'elle fasse ça. Par exemple, mon entreprise, je voudrais qu'elle soit le leader à Chalon des fabrications des lunettes marron. Voilà, j'ai cette ambition-là. Et puis, il faut que je me donne un objectif. Une fois que j'ai donné une ambition, il faut que je fixe un objectif. Bah, pour être le leader des lunettes marron à Chalon-sur-Saône, il faut que j'en fasse 1 million par an. Et après, derrière, je vais donc décliner un projet et une stratégie pour atteindre mon ambition et mon objectif. Mais vous pouvez le décliner en n'importe quoi. Si je suis un athlète de haut niveau, j'ai l'ambition de devenir champion olympique de natation sur le 100 mètres. Et ben, si je veux devenir champion olympique du 100 mètres, il faut que je nage en dessous de 47 secondes. Donc, ambition, champion olympique, objectif, 47 secondes au 100 mètres. Mais pour réussir à faire 47 secondes au 100 mètres, eh ben, ça veut dire que pendant 20 ans, je vais nager 3 fois par jour, je vais faire de la musculation tous les jours, et ça va obliger à quelque chose. Ça s'appelle un projet avec une stratégie pour l'atteindre. Et si on est à Chalon-sur-Saône, il faut qu'on soit de la même manière capable de dire, et ça c'est le rôle des élus que j'admire, les deux dont je vous ai parlé, c'est d'avoir une vision, se dire Chalon, finalement, quelle est l'ambition de Chalon ? Vers où on veut aller ? Vers où on amène tout le monde ? Pour quel objectif ? Et donc, quels moyens on va mettre en face ? Quel projet ? L'ambition qui se dessine, c'est finalement celle de la ville connectée, de la ville de l'image. Parce que Chalon, elle a quand même un désavantage, c'est qu'elle n'a pas une image qui est forte et qui est connue. Si vous demandez à un Français moyen, connais-tu Chalon ? Au pire, il va vous parler de Chalon-en-Champagne. Non, Chalon-sur-Saône. Ah, Chalon-sur-Saône, oui, c'est sur l'autoroute A6, commence à se situer un peu là. Ah ouais, c'est Kodak. Ah ouais, bah Kodak, bah, tu parles. Et Kodak, ça fait 10 ans bientôt que c'est fermé. Kodak. Ah oui, alors c'est les cheminées là, qui crachent de la fumée. Donc Chalon, aujourd'hui, alors je le dis devant mes copains élus, je l'ai déjà évoqué, et je pense pas que ce que je dis soit foncièrement faux, n'a pas une image forte. Et c'est cette image qu'il faut travailler. Et en ce sens, si on dit qu'une de nos filières du futur, qui est la filière de l'image, du son, du numérique, eh ben ça se passe à Chalon, ça donne une image positive. Parce que de là, mon ami Gilles Platret, il dit « Mais on pourrait faire à Chalon le plus grand musée européen de la photographie. » On a cette légitimité. Et cette légitimité qui nous fonde. Et Chalon-sur-Saône, ville de l'image, ville lumière, voilà, donc tout de suite, on est capable d'aller vers quelque chose. Alors pour terminer sur les aspects du développement de l'agglomération à travers le numérique, il faut que de la même manière, on réfléchisse toute notre organisation à travers cette évolution. Je vais juste vous donner deux exemples, puis après je m'en arrêterai là. Deux exemples. Le premier, un exemple, c'est, on parle, et je pense que c'est même Joël Lefebvre qui doit s'en occuper, on parle de la lumière et de l'éclairage public. C'est toi qui t'en occupes. Éclairage public. Il y a deux approches pour gérer le dossier aujourd'hui. Ou bien, on fait un appel d'offres, éclairage public, changez-moi toutes les lumières, là. En plus, on a une obligation de le faire liée à la loi sur l'énergie. Moi, je l'ai fait épervant. Ça nous a coûté une fortune à changer toutes ces lumières. Bah, tu le fais aussi à Crissé. Ou bien, on le regarde comme ça, de manière minimaliste. Ou bien, on le regarde en disant, finalement, comment on pourrait réorienter l'éclairage public et trouver une autre utilité à travers le numérique. Alors, je discutais avec deux, trois élus. Il existe maintenant des systèmes où, à travers la lumière, et à travers l'information qui peut passer sur la lumière, on peut, alors ça touche aussi les domaines qu'a géré Joël Lefebvre, les places de parking. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de gérer de l'information sur les places de parking qui sont disponibles grâce au faisceau lumineux de l'éclairage lui-même. Et on va donc gérer les places de parking. Alors dans une ville comme Chalon, ça peut avoir un avantage, mais qui est limité. Mais dans une ville comme Paris, ou à Paris, un tiers des voitures qui tournent sont des voitures qui cherchent une place de parking. Si aujourd'hui, à Paris, je suis quelqu'un qui possède une place de parking, voilà, je suis un Parisien qui possède une place de parking vide, et si je suis un provincial, comme ça m'arrive moi d'aller à Paris, et je cherche une place de parking, on a toutes les chances de ne jamais se retrouver entre moi qui cherche une place de parking au milieu de plusieurs millions de places de parking libres et disponibles. Alors vous allez mettre en route un applicatif où moi je vais dire j'ai une place de parking de disponible et moi je suis un automobiliste qui cherche une place de parking et grâce à un système de géolocalisation, je vais trouver une place de parking. L'intérêt de ça, c'est que déjà, celui qui a une place de parking va pouvoir la louer et il y aura donc moins de voitures en circulation dans Paris et on va réduire le taux de pollution. Donc c'est tout un ensemble. Ça s'appelle l'économie du partage. De la même manière, donc on pourrait imaginer quelque chose comme ça à Chalon-sur-Saône, c'est de se dire, bah si on doit changer les luminaires, mettons-y ce qu'on appelle des luminaires intelligents qui vont analyser la gestion des places de parking. Mais de la même manière, si demain j'étais à la gestion des déchets, là c'est, je prends en plus Éric Mermet qui est délégué, les déchets c'est pas toi, c'est le transport. Ouais, mais ça pourrait marcher parce que si je prends le cas de la gestion des déchets des conteneurs, aujourd'hui, le conducteur du camion, il va faire toujours le même circuit, que les conteneurs soient pleins ou soient vides. Mais si à l'intérieur du conteneur, on met une puce qui va dire que le conteneur, il est vide ou il est plein, alors à ce moment-là, le circuit du camion va être différent, parce qu'il va faire le tour des conteneurs pleins, et non pas des conteneurs vides. Donc il va passer moins de temps. Donc on peut réimaginer toute notre agglomération à travers le numérique et voir comment on peut faire évoluer les choses. Alors vous avez entendu parler des objets connectés, des bâtiments connectés, où on fait l'analyse de la température qui permet de mieux gérer la gestion de la température. Et là, on développe, pratiquement, ça va être une des premières villes en Bourgogne à développer ce concept-là. Ça s'appelle le concept de la Smart City. Smart City, c'est comment faire cohabiter tous ces systèmes numériques et cette gestion de la connaissance à travers des applicatifs qui vont améliorer la vie au quotidien de nos citoyens. Donc voilà, je vous ai fait un rapide panorama. D'ailleurs, il n'y a même pas eu besoin de tout ça, finalement, parce qu'il y a encore beaucoup de slides derrière et je ne vais pas vous harceler avec ça. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers. Et maintenant... Et maintenant, Escoffier. Ouais, parce que tout à l'heure, il parle. Et quand est-ce qu'on arrive sur Escoffier, là ? Alors, j'y viens, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a des parallèles qui se font entre le développement d'une agglomération, l'avenir. Donc, je vous ai parlé du passé, de s'installer dans le présent, puis s'installer dans l'avenir, le numérique, les forces, les faiblesses. Mais en fait, une entreprise, c'est pratiquement pareil. Si je reprends le cas d'Escoffier, alors je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises parce qu'Éric Mermet, il connaît mieux le dossier que moi encore, certainement. C'est une entreprise qui a été créée en 1924, puisqu'on a fêté les 90 ans d'Escoffier, à Paris, par un Louis Escoffier. Et il a inventé différents systèmes mécaniques et ça s'est plus ou moins transformé pour être ce qu'on appelle chez Escoffier la formation des métaux à froid. Alors vous voyez, c'est déjà quelque chose de très très précis. C'est-à-dire qu'on prend des lingots d'acier qu'on va former grâce à des molettes circulaires qui tournent, qui ont des dents et qui vont former l'acier à froid. Et cette formation du métal à froid va permettre de faire des pignons de boîte à vitesse, par exemple, ou va permettre de faire des filets de vis, en fait, va pouvoir permettre de former la matière, de la déformer, avec une précision pratiquement du micron, grâce à cette technologie. Alors, je vous la fais assez courte, parce que Escoffier n'a pas fait que... n'a pas fait que ça, a eu d'autres technologies, mais aujourd'hui, c'est celle-là qui est la plus importante, et qui est aujourd'hui celle pour laquelle Escoffier est connu, on peut le dire, mondialement. Connu mondialement dans le monde de l'automobile, et dans le monde des fabricants de boîtes à vitesse. D'accord, c'est pas tout le monde connaît pas Escoffier, malheureusement, mais beaucoup dans l'automobile connaissent. Cette entreprise s'est installée dans les années 60, et d'ailleurs a été pratiquement dans la zone d'activité, ce qu'on appelle Sonéor, une des toutes premières entreprises à s'installer. D'ailleurs, avant Kodak, la première entreprise à s'installer dans la zone Sonéor, ça a été Philips. C'était Philips en 1954. Et d'ailleurs, 52 ou 54, je ne sais plus. Dans les années 50. Et d'ailleurs, à l'époque, Chalon s'est toujours développé sur des ruptures. Toujours. Là, je parle aux historiens. Chalon s'est développé au 19e siècle grâce à une rupture qui était l'industrie métallurgique. Chalon s'est développé dans les années 60 grâce à une rupture qui a été l'invention des zones d'activité. Avant Chalon-sur-Saône, c'est une innovation à Chalon-sur-Saône, il n'y avait pas de zone d'activité. L'activité était au milieu de la ville. Comme le Creusot. Le Creusot, l'activité au milieu de la ville, et puis les maisons sont construites autour. Vous allez à Montbard, c'est pareil. Vous allez partout. Ça s'est toujours fait comme ça dans l'histoire de l'humanité. L'économie s'est toujours développée, la vie s'est toujours développée autour de l'économie, qu'elle soit le commerce ou l'industrie. Et puis à Chalon-sur-Saône, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de créer une zone d'activité hors de la ville pour accueillir des grosses entreprises. C'était la première fois que ça s'est fait en France. Et c'est ce qui a permis à Chalon de se développer beaucoup dans l'industrie. Puis Chalon a connu une autre rupture, une autre rupture plus ou moins, c'est l'invention de la DERC dans les années 80. Les agences de développement économique, les villes ne les géraient pas. Et c'est Perben qui a inventé ça. Voilà, donc bon, on espère un jour avoir l'idée qui va faire qu'on aura la rupture, qui va replacer la ville à un autre niveau. Bon, on verra bien. Alors, Escoffier s'installe dans les années 60, se développe et devient une très très belle entreprise. Il y a eu jusqu'à 130, 140 personnes, beaucoup beaucoup de monde. Très belle affaire. Je vais la faire court parce que ça peut être un peu long à raconter tout ça, mais dans les années 80, il y a deux leaders mondiaux. Je simplifie outrageusement, Eric, hein, mais ça nous fait plaisir de le dire comme ça. Il y a deux leaders mondiaux. Il y a un qui s'appelle Profirol, qui est un Allemand, et il y a un qui s'appelle Escoffier, qui est un Français. Et les deux se tirent la bourre dans les années 80. À ce moment-là, Escoffier est racheté par un groupe français qui s'appelle Vallourec, rentre dans l'escarcelle d'un groupe Vallourec. Et Escoffier connaît malheureusement un lent déclin, d'année en année. Alors qu'en 1980, ces deux sociétés, pour vous donner des chiffres, font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, sont les deux leaders mondiaux. Et puis l'entreprise connaît des difficultés, va descendre jusqu'à il y a quelques années en 2009, le redressement judiciaire, la liquidation, puis le redémarrage de l'activité. En 2009, quand l'entreprise est arrêtée, quand l'entreprise est liquidée, Escoffier fait plus que 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires, est devenue une petite entreprise, pratiquement elle est morte. Et l'entreprise allemande, qui s'appelle Profirol, elle fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire là où on a divisé par deux, ils ont multiplié par 10. Et ils sont installés sur la planète complète. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, c'est ce que vous entendez parler souvent de ces fameuses ETI, ces entreprises de taille intermédiaire qu'on voit beaucoup se développer en Allemagne. C'est des entreprises familiales fortement capitalisées. Quand on reprend l'entreprise, Éric Mermet était le directeur commercial de Escoffier, on décide de redémarrer. Et pas tout de suite, d'ailleurs, l'activité était bonne. Il a fallu quand même beaucoup de temps, parce que quand vous travaillez dans l'automobile, vous travaillez dans un monde où les constructeurs automobiles veulent des gens fiables. C'est-à-dire que quand ils investissent dans une machine, il faut être sûr que le fournisseur, dans 20 ans, sera encore là. C'est primordial. Un constructeur automobile n'investira jamais sur une société qui n'est pas solide. Et Escoffier, au fur et à mesure du temps, avait perdu cette solidité. Les constructeurs y croyaient plus. D'ailleurs, Peugeot et Renault achetaient plus de machines Escoffier. Enfin, quand on me dit « Cocorico, produisons français », ça me fait un peu marrer. Renault achetait des machines allemandes. Okay, ils étaient même pris qu'Escoffier, mais l'acheteur, il disait « c'est de la machine allemande, au moins on viendra pas me reprocher les problèmes de qualité ». Bon, donc voilà. Donc, les seuls qui achetaient des machines Escoffier, c'était pour le coup des Chinois ou alors des Coréens. On a vendu des machines chez Hyundai. Ouais, alors c'est les Chinois et les Coréens qui faisaient confiance à nous, même pas les Français. Bref. Donc on a tenté de redémarrer l'activité d'Escoffier, mais c'était très très dur. Et un projet sur lequel Éric Mermet est ici présent, et je le félicite à nouveau, même si nos chemins ont été amenés à se séparer. On a pris une affaire, c'est ce qu'a fait le déclenchement, le redémarrage d'Escoffier, une affaire chez un constructeur allemand sur une fabrication de pièces spécifiques, et on était face à notre concurrent allemand, et on a battu notre concurrent allemand en Allemagne, chez un constructeur allemand, et depuis quelques années, on est en train de vendre des machines dans un procédé qui s'appelle le galtage. Alors, je sais qu'il y a des techniciens et des ingénieurs, qu'est-ce que c'est le galtage ? C'est la capacité à former une pièce avec la précision du micron, et on vient faire, on fait ce qu'on appelle un écrouissage de surface, on vient amener une dureté superficielle qui fait que la pièce est très très dure en surface, est plus tendre à cœur, ça donne un peu de souplesse, mais ça donne beaucoup de dureté. Voilà, donc ça s'appelle le galtage. Et aujourd'hui, je le dis vraiment de manière très prétentieuse, il y a une société dans le monde qui sait faire du galtage, c'est Escoffier. Donc on a redéveloppé l'activité de la société, mais on l'a redéveloppé, on va dire, en racontant une histoire. Ça, c'est important. On va pas raconter des histoires, mais raconter une histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quelqu'un qui travaille chez Escoffier, quand il vient usiner une rondelle, bon, il usine une rondelle, d'accord, mais il fait pas que usiner une rondelle. Il va en même temps participer à la création d'un produit technique. Mais en fait, pas du tout. Il participe à la vie et à l'avenir d'Escoffier. C'est-à-dire cette notion de dire l'entreprise appartient d'une certaine manière aux salariés, ils doivent la vivre et ils doivent vivre cette aventure. Donc on pourrait dire c'est le management à travers l'aventure, c'est le management à travers l'histoire. Et c'est tellement plus facile des fois de dire soyez performants, soyez productifs, soyez volontaires. Ben là, on n'a jamais vraiment dit ça. On a dit « Vivons ensemble l'histoire d'Escoffier ». Et globalement, je veux dire comme ça, la mayonnaise a pris. Dans toute chose, on a des fois de la chance, on a moins de chance. Mais là, on a pris cette belle affaire qui a remis en route. Et dans la foulée, tout de suite, pour montrer notre volonté de croire en cette entreprise, eh ben, on a acheté une machine qu'on ne pouvait pas se payer. Donc on a acheté une très très grosse machine suisse qui fait de la rectification pour faire nos outillages, vous verrez ça quand vous allez venir. On a acheté cette machine-là, on avait à peine le moyen de la payer, mais de toute façon, si on n'avait pas fait, on serait mort. Donc on a acheté cette machine-là. Puis une deuxième, on a amélioré la productivité avec le temps. Ça a commencé, alors j'ai appris au bout d'un an et demi Escoffier était une pépite industrielle de la Saône-et-Loire. C'est-à-dire un an et demi avant, elle valait rien, dépôt de bilan, liquidation, tous ceux qui travaillaient dedans, ils étaient nuls. Un an et demi après, c'était une des plus belles entreprises de la Saône-et-Loire. Et je dis ça de manière ironique et déplacée, mais il faut savoir que notre outil industriel et notre savoir-faire industriel a décliné et a disparu à cause de ce genre d'attitude. Parce qu'à la limite, Éric Mermet serait pas venu me voir il y a quelque temps à la mairie d'Épervent en me disant « Bon, est-ce qu'on peut redémarrer l'activité ?» Escoffier disparaissait. Aujourd'hui, beaucoup se font des gorges chaudes de dire « Escoffier va à l'export, fait ci, fait ça ». Oui, ok, d'accord. Parce qu'il y a des gens dans l'entreprise qui sont des numelles. Mais si on avait laissé faire les grands politiques de l'époque, l'industrie s'est déterminée. Escoffier, ça n'avait plus de sens. Plus personne veut travailler la ferraille. Ben, c'est faux. C'est faux. Escoffier a véritablement aujourd'hui un savoir unique au monde, qui est en train de redévelopper. On est en train de le redévelopper. Bon, j'en ai parlé à travers la com, à travers des investissements. On a fait aussi, et c'était tellement étonnant qu'on a même eu TF1 qui est venu nous voir. Mais vous êtes encore vivant, vous ? Bah ouais, on est encore vivant, désolé. On essaie d'avancer. On a eu France 2 qui est venu nous voir. Ils ont fait des reportages sur la productivité, l'amélioration de la productivité, mais qui est ni plus ni moins que le bon sens. Puis Escoffier a redémarré, petitement. Les résultats se sont améliorés. On boucle des bilans maintenant régulièrement positifs. La société doit être cotée 3 en Banque de France, c'est-à-dire c'est la meilleure cote. On n'a pratiquement pas de dette. On a réinvesti dans une deuxième machine, puis bientôt une troisième. Et puis on sent que notre concurrent allemand, il nous regarde différemment. Il nous regarde différemment. On s'est installé en Inde. On a monté une joint venture. À nouveau, c'est Éric Mermet qui a eu l'idée. C'est avec ton ami Jay, on a développé une activité, on a ce qu'on appelle une joint venture, et je fais un peu le businessman, une joint venture avec des Indiens. C'est pas facile, hein. À l'export, c'est pas facile. Les Indiens, c'est très compliqué. Alors, juste pour détendre l'atmosphère, y a un dicton qui dit si tu vois un serpent et si tu vois un Indien, méfie-toi de l'Indien. Voilà. Il n'y a pas d'Indien dans la salle ? Il y a une Bressane ? Bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est particulier quoi. Enfin, quand vous allez à l'export. Un Indien, il vous dit jamais ni non, il vous dit toujours oui. Oui, 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 oui. Il vous dit tout le temps oui. En fait, il fait comme il a envie. Il vous dit oui. Bon, nous, on a de la chance, on est tombé sur des bons Indiens. Là. Donc on développe notre activité en Inde. On est en train de tenter de développer un partenariat aux États-Unis. On va certainement racheter un de nos concurrents américains qui va faire que je pense que dans 3, 4, 5 ans, on va redevenir le numéro 2 mondial. On sera peut-être pas au niveau du numéro 1, mais on va être bien placé. Ce qui veut dire que globalement, en France, on a des connaissances, on a un outil industriel, on a de la créativité. On est allé il y a quelques jours à Shanghai. On vient de vendre une machine à Shanghai, dans une zone d'activité, et les Français sont très bien vus. Les Français sont très bien vus, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils nous considèrent comme des gens créatifs et des gens qui avons une histoire. Et je conclurai là-dessus, parce que je crois que j'ai fait plus qu'une heure là, avec tout ça.
Ça va, ça va.
Ça va, ça va. Bon, d'accord. Les Français ont une histoire et c'est quelque chose qui est très apprécié dans le monde. On est porteur d'un message. Et on est aussi des gens très créatifs. Et en chinois, ça se traduit comme on est des romantiques. Pour eux, pour un Chinois, un romantique, c'est quelqu'un qui a une histoire, qui a un passé, qui a des connaissances, qui a un savoir-faire, un savoir-vivre, une créativité. Bon, c'est pas que des romantiques, au sens affectif du terme. C'est dans la manière d'être. Et on est très apprécié à l'export, à l'international, grâce à ça. Bon, sauf chez les Anglais. Les Anglais nous aiment pas et on leur rend bien, remarqué. Mais dans les autres pays, on est beaucoup apprécié grâce à ça. Et les industriels français ont des capacités à pouvoir se développer. D'ailleurs, Michel était là, je suis allé avec un de mes amis. Il n'est plus là, il est parti. Michel a pris sa photo, puis il est parti. On est allé ensemble en Chine. Les Français ont des choses à faire là-bas. Et l'image qu'on a de la Chine, des millions de petits Chinois avec un bol de riz et tout le monde travaille à coups de cravache, ça s'est terminé. Hein. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu à Shanghai. Hein. Alors, il y a bien des coins, ça doit exister, je ne dis pas. Mais à Shanghai, c'est une ville d'une modernité absolue, avec des routes qui sont des autoroutes, avec certainement les plus grands buildings au monde sont là-bas. Les voitures, c'est beaucoup des voitures allemandes. C'est des gens aujourd'hui qui sont à un niveau de culture très élevé. Le salaire moyen aujourd'hui d'un Chinois à Shanghai, c'est entre 800 et 1000 euros. Donc c'est pas le bol de riz. Et aujourd'hui, ils sont même plus dans la démarche d'être l'atelier du monde et de déverser sur la planète entière un tas de produits fabriqués un peu n'importe comment. Aujourd'hui, eux, ils se développent, ils vont développer leur activité à travers la robotique,
pour leur propre consommation interne. Aujourd'hui, ils sont capables de fabriquer des avions, ils sont capables de fabriquer des voitures, et c'est devenu aujourd'hui un continent industriel. Voilà, donc, comment ? Des centrales nucléaires, ouais, bah, j'espère qu'elles ne fisseront pas les leurs, parce que ça ne va pas aller longtemps. Voilà, donc, Escoffier est aujourd'hui en train de redémarrer dans ses métiers de la mécanique, de la métallurgie, des métiers qui sont très critiqués. La difficulté qu'on a, c'est pas tellement de trouver des clients, bon, faut les trouver, mais c'est de trouver des opérateurs et des gens qui ont envie de travailler dans la mécanique et dans la métallurgie. Alors voilà un rapide panorama. Juste pour conclure, parce que finalement, développer une agglomération, redonner une dynamique économique à une agglomération, et redonner une dynamique économique à une entreprise, on peut dire que dans les concepts, c'est un peu la même chose. Je vous dis ambition, objectif, projet, stratégie, aller sur son point fort, avoir de la volonté, un peu de moyens financiers. Mais j'oserais dire que dans l'agglomération, dans une collectivité, c'est plus compliqué que dans le monde de l'entreprise. Parce que dans le monde de l'entreprise, il y a un temps qui est le temps économique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise, elle a pour fonction de gagner de l'argent. Bon, je ne vais pas le redire trop souvent parce qu'après, ça fait un peu caricatural. Mais l'agglomération, elle est pas, elle n'a pas pour vocation pure de gagner de l'argent. Elle a pour vocation de faire vivre les gens ensemble. Et souvent, quand on dit une ville, elle doit être gérée comme une entreprise, en fait, c'est faux. Et quand on dit, t'es chef d'entreprise, ça va être plus facile pour toi de gérer un petit village comme Épervan, c'est comme ton entreprise, c'est faux. Enfin, c'est pas tout à fait pareil quand même. Pourquoi ? Parce que dans le développement d'une agglomération, comme celle-là, qui est quand même importante, il y a plusieurs temps. Je vous ai parlé d'un temps économique, j'ai beaucoup parlé d'économie. Mais il y a ce qu'on appelle les temps politiques. Il y a un temps politique, il y a un temps économique. Et il y a un temps administratif. Et donc tous ces temps ne fonctionnent pas de la même manière. Et on peut dire qu'il y en a des temps qui sont plus longs que d'autres. Et il y a des temps qui sont plus importants que d'autres. Et j'en veux un exemple, c'est le temps politique. Le temps politique, c'est quoi ? Ça veut dire que, finalement, toute affaire cessante, ce qui compte, c'est l'élection. Alors pour les élus, c'est de se dire comment je vais me faire réélire. Bon. Alors je le dis de manière encore assez simple, parce que je gagne ma vie grâce à mes entreprises. Et je suis élu parce que je suis passionné, comme Eric ou comme Joël. Donc là, vous avez affaire à des élus de terrain qui sont passionnés par leur truc. Mais ceux qui en vivent, ceux qui mangent avec, eux, ils s'intéressent quand même à se faire réélire. Hein. Parce que si demain, ils ne sont pas réélus, ils vont venir bosser chez Escoffier. Hein. Mauvaise pioche, hein, même si l'histoire, elle est belle à raconter. Et donc, les temps politiques font que parfois, ça amène des scléroses. Parce que ça n'est pas la priorité au moment de l'homme politique. Alors là, c'est ce qui explique un peu la sclérose de notre pays. On a eu les cantonales, ça a échappé à personne, même si ça donnait des scores faibles de participation. Bon, tous nos politiques étaient intéressés pour savoir qui allait être cantonnier. Hein. Ça, c'était vachement important. Après, je le dis avec beaucoup d'humour, parce qu'en plus, ils peuvent rien me faire. Moi, je suis parti pour les législatives en Bresse. Pas de bol. Il y a, maintenant, on est sur les élections régionales. Alors, pour ceux qui s'intéressent un peu, tout le monde est en train de s'écharper. Qui va être la tête de liste à droite ? Alors, surtout pas un gars de Franche-Comté. Plutôt un bourguignon. Enfin, moi, je dis, je vous le répéterai pas, mais si c'était pas un gars de Dijon, ça m'irait bien. Parce que si jamais c'est un gars de Dijon, mais le conseil régional, il sera encore tout pour Dijon. Et il y aura rien pour Chalon. À moi, ce qui m'intéresse, c'est Chalon. Donc si demain, il y a un président du conseil régional qui dit « Je vais bien m'occuper de Chalon parce que je suis pas obligatoirement dijonnais », ça peut m'aller aussi. Vous voyez, je ne dis pas pour qui je suis intéressé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de s'étriper pour les régionales. Il faut que tous ces politiques ils puissent avoir une place quand même. Hein. Bah oui. Et puis après, bah, on va arriver en 2016, inévitablement, après 2015 et 2016. Et puis là, c'est les primaires à l'UMP. Donc il ne va plus s'appeler la UMP, il va s'appeler autrement. Et puis chez les socialistes, alors là, à nouveau, ça va brasser. Hein, parce que derrière, il y a la présidentielle. Voilà. Et puis on arrive aux législatives. Bon, moi, j'aurai quelques mois quand même, vous me permettrez de m'intéresser au temps politique. Bon, je le dis de manière un peu ironique et peut-être un peu cassante avec mes amis politiques, mais ça peut être un frein dans la dynamique économique, sans compter les alternances. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est plutôt une bande d'élus qui sommes porteurs de la volonté de développement économique, mais c'est pas dans toutes les philosophies comme ça. Donc vous voyez des phénomènes de va-et-vient qui font que marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Le temps économique, j'ai passé une heure à vous en parler, on s'est compris. Après, le temps administratif, c'est qu'on a aujourd'hui une administration qui est plus que tatillonne, qui est lourde. Et quand vous avez une entreprise qui veut s'installer, que ce soit à Chalon ou ailleurs, que des gens vont commencer par les fouilles archéologiques, alors là, elle est mal arrivée, hein, parce que par malheur, on va trouver un petit morceau de terre, de n'importe quoi, un bout de nonos dans un champ, c'est terminé pour 3 ans, mais ça coûte une fortune. On rigole, mais ça coûte une fortune. Et ça peut durer 3 ans. Bon, ça y est, on a purgé le terrain, on a dit. Ah, chouette, on a eu le cas à Épervent. Un jour, j'ai vu arriver à Épervent des bulldozers et ils m'ont fait des trous sur un terrain de 7 hectares pendant des mois. Il y avait des bulldozers qui faisaient des trous. Qu'est-ce que vous faites ? On purge. Ah, bon, c'est bien. Parfait. Ça a dû coûter 100 000 euros, la petite affaire. Et ils n'ont rien trouvé, heureusement. Ils n'ont rien trouvé. J'ai dit, jamais j'ai un de mes concitoyens qui s'en va mettre un bout de poterie là-dedans, moi, je suis mort. Mais ça, c'est des temps administratifs. Et je vous parle de ce cas-là parce que je l'ai vécu. J'ai failli installer une usine à Dijon où on a fait les plans, on a donné notre dédite, on a investi, pris les financements. Et au moment de démarrer, ah ben non, on n'a pas fait la purge. Bon, bah, désolé. Donc on a perdu 2 ans. Mais vous le retrouveriez, ces temps administratifs, dans les gestions des permis de construire, les gestions des lois sur l'eau, enfin bon, d'un bout à l'autre. Donc c'est pas facile pour une agglomération, c'est moins facile pour une agglomération, pour une entreprise, de mettre en route une dynamique. Et puis en même temps, il faut convaincre tout le monde d'aller dans un sens donné. Alors dans une entreprise, le patron, c'est le patron qui même me suit, celui qui n'est pas content, bah, pff, hein, c'est là où on va. Voilà. Donc ce que j'avais à vous dire ce soir, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé avec mes propos, plutôt des propos de terrain, et vous voyez les liens qu'il peut y avoir entre le monde de l'entreprise finalement et le monde de la cité.
Je me suis régalé. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. Donc vous avez tout dit, parce que vous avez abordé tous les sujets, et en particulier sur la fin, donc l'aspect, j'allais dire, sociologique ou presque ethnologique, qui fait que le comportement des gens est différent suivant le contexte dans lequel ils se trouvent et au niveau des contraintes externes qu'ils doivent subir. Je rappelle quand même que toutes ces dernières années, on a fait une séance sur le Mittelstand avec des Allemands, pour expliquer pourquoi en Allemagne ça marche et pourquoi chez nous ça a tant de mal à marcher, sauf avec des vedettes comme vous. Mais il y a quand même des problèmes, disons, culturels, hein, qui sont forts et pour lesquels on a déjà débattu. Je ne vais pas en rajouter de couche parce qu'il faut profiter de l'occasion de votre visite pour ouvrir les questions ou les débats ou les compléments. Alors, allez-y. Il y a des amateurs. Ah, voilà, quand même. Oui.
Oui, bonjour. J'ai une petite question très curieuse sur l'ingénierie numérique, l'image et son. Quel type d'emploi est-ce que ça peut amener sur le Grand Chalon, sur la région ?
Alors, sur l'imagerie, alors. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle la réalité augmentée ou réalité virtuelle. Ça va être toute la conception des logiciels autour de l'image. Par exemple, je vous incite à aller à l'Institut Images. Vous allez voir un système de ce qui s'appelle la réalité virtuelle. Par exemple, c'est un logiciel. Vous mettez des espèces de lunettes. Et ce logiciel vous permet de vous balader dans une centrale thermique où on va avoir tout un tas de tuyaux. Alors, il y a un fichier qui s'appelle un fichier 3D, qui est le fichier de dessin des tuyauteries d'une centrale. Et grâce à un système de ce qu'on appelle l'image de réalité virtuelle, eh ben, vous avez l'impression d'être au milieu de toute cette tuyauterie et qui vous permet justement de toucher tout ce qui est autour de l'ingénierie. Voilà, tout ce qui touche autour de l'ingénierie. Après, sur d'autres sujets, je vais vous prendre des exemples, on pourra en trouver de nombreuses, donc c'est plutôt des métiers qui touchent autour du développement informatique, du développement de l'image. Vous avez ce qu'on appelle la réalité augmentée. La réalité augmentée, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple votre iPad. Je suis aujourd'hui un vendeur de meubles. Eh bien, je vais vendre mes meubles grâce à la réalité augmentée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je crée une bibliothèque et puis je vais prendre mon iPad et je vais visionner la pièce dans laquelle je suis, vous voyez bien comment ça peut être, et je vais aller chercher dans cette bibliothèque des meubles que je vais mettre de manière virtuelle et augmentée dans mon écran. Donc je vais voir ma pièce avec les meubles que j'aurai choisis. Alors, par exemple, je vous donne un exemple tout simple qui se développe beaucoup. Afflelou, aujourd'hui, développe toute la vente de ses lunettes, non plus dans des magasins, mais à travers la vente en ligne de ses lunettes. Je prends un exemple. Je veux acheter une paire de lunettes, je prends mon iPad, je me regarde dans la glace de mon iPad, donc ça s'appelle, là c'est de l'imagerie, et la réalité va être augmentée. Quand elle est augmentée, c'est ajoutée de cette paire de lunettes que je mets sur mon visage. Alors je vais me regarder avec les lunettes, comme si j'allais dans la boutique du coin. Donc, et je pourrais vous en parler pendant des heures, de tout ce qui touche à travers l'image, les services, le développement engineering, par exemple dans la résistance des matériaux. Vous avez été là-dedans, résistance des matériaux, grâce à l'imagerie, vous allez définir des zones de contrainte, des zones de rupture. Bon, l'image, elle est partout, en fait. Et donc, par exemple, vous avez une entreprise à Chalon, je vous donne des exemples, In Situ.
Oui, c'est un spin-off de l'Institut d'Image.
Voilà, In Situ a développé des applicatifs qui permettent notamment, je crois, à Bibract, d'aller vous balader dans Bibract. Et puis vous êtes avec un applicatif qui vous dit à chaque endroit, eh ben voilà, telle œuvre, c'est tel truc, tel machin, et puis ça vous amène tout un tas d'images, un tas d'informations. Donc on est dans la gestion de l'information et à travers l'image. Voilà, alors ce que ça peut... En fait, il y a un champ aujourd'hui qui est immense. Je vous parlais tout à l'heure de c'est quoi la différence entre l'innovation et puis l'idée. L'innovation, c'est une idée qui a trouvé une application, c'est trouver une utilité. Alors, c'est vrai, des fois, on invente des choses, on dit, tiens, on ne sait pas encore trop à quoi ça va servir. Mais après, c'est celui qui aura l'idée de l'appliquer à quelque chose. Tu veux dire quelque chose, Eric ?
Oui, juste un petit commentaire, c'est que... Il y avait la semaine dernière le printemps de la recherche d'EDF qui se tenait à Chalon. Et vous étiez... C'était exactement ça. C'est-à-dire que tout le programme de recherche et de développement d'EDF et les entreprises qui tournent autour des projets d'EDF... Tous les programmes sont des programmes qui tournent autour de la simulation et de l'image. Que ce soit sur les projets de conception, de fabrication, de production, de maintenance, tout tourne autour aujourd'hui de la simulation. C'était vraiment le fil conducteur de cette journée de R&D.
En complément de ce que tu dis, Renault travaille avec l'Institut Image sur toute l'ergonomie des véhicules. Donc si vous allez à l'Institut Image, vous allez voir une espèce de poste de pilotage qui est la dernière Renault, où vous êtes assis d'une certaine manière dans la voiture et ils étudient à travers l'image, à travers toute cette sensation qu'a le conducteur dans la voiture, l'ergonomie de la voiture. C'est-à-dire, je suis dans la voiture, vous êtes comme si vous étiez véritablement dans une voiture en train de rouler, sauf que vous êtes sur un espèce de laboratoire ou centre d'essai.
Oui, madame, vous vouliez poser une question ?
Je vais passer mon fil, mais...
Oui. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Oui.
Oui.
Vous avez évoqué le musée Niépce, la photo,
oui,
et l'image.
Oui.
Et qu'entendez-vous avec une vision plus large dans ce domaine?
Bon, alors je vais parler sous le contrôle de mes amis élus, parce que moi je ne suis pas délégué au tourisme. Donc je vais vous dire ce que j'en entends. C'est Gilles Platret qui est en charge de ça. Bon, il y a véritablement des axes de développement du tourisme. Aujourd'hui, c'est quand même pas normal que la plupart des bateaux arrivent en bord de Saône chez nous, et puis qu'il y ait des bus qui viennent les prendre pour les amener à Beaune. Donc on a tout un réseau de services, que ce soit gastronomique, dans les métiers du vin, pour capter tous ces gens, et plutôt qu'ils aillent à Beaune, qu'ils restent à Chalon-sur-Saône, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir à Chalon. Donc il y a des choses à organiser autour du tourisme. Par exemple, il y a une volonté qui est d'organiser le tourisme industriel. Ça, quelque chose qui marche bien, c'est de finalement des gens aillent visiter, vous allez le faire, vous allez visiter Escoffier, c'est très enrichissant. Et puis de discuter avec les gens qui sont dans l'entreprise, dans l'atelier, ils sont toujours honorés de voir des personnes s'intéresser à ce qu'ils font. Donc il peut y avoir du tourisme industriel, il y a une évolution vers tout ce qui touche le tourisme, de part aussi... Alors, c'est pas le rallongement de la vie, je crois qu'on vit jeune plus longtemps, voilà. On vit jeune plus longtemps qu'avant, et donc il y a des gens qui sont de plus en plus disponibles à aller vers la connaissance, à se déplacer.
Qui sont ici, là, c'est tous des jeunes.
Exactement. Donc de plus en plus, il y a des gens qui vont se déplacer, on peut leur apporter ces services-là. À Chalon, il y a beaucoup à faire.
Je peux vous... Ça marche, oui. Oui, je peux vous donner juste quelques axes sur lesquels on travaille actuellement. Donc il y a la Saône, naturellement, avec les bateaux, mais bateaux, les gros bateaux, mais également le tourisme fluvial, puisque le tourisme fluvial est très important à Chalon. Il faut savoir que le port de plaisance est complet tout l'été. Et on refuse du monde, donc ça c'est un axe. Il y a également, donc comme disait Eric, le vin. Et il y a également la culture, puisque vous savez qu'on a une île qui aujourd'hui, moi j'ai par habitude de l'appeler une île, mais c'est un diamant brut, il faut qu'on le taille maintenant. Et donc cette île devrait se développer avec, on a beaucoup d'idées sur le, que je peux pas encore vous dévoiler, mais on travaille dessus sur l'ancien hôpital. On a également le tourisme vélo, parce que ça prend une ampleur importante et aujourd'hui, il n'y a aucune piste cyclable qui est reliée sur Chalon. Elle s'arrête toute un peu à l'extérieur de Chalon. Et puis, alors je me souviens jamais le nom de ces, c'est les voitures avec une caravane. C'est une
camping-car.
Camping-car, voilà. Et donc, on est également aussi en train de travailler sur le camping-car. Tout ça, c'est l'attractivité de la ville et du Grand Chalon. Parce que je pense qu'on a vraiment des moyens. Alors c'est vrai que ça existe dans toutes les villes, comme disait Eric tout à l'heure dans son exposé, mais utilisons quand même les nôtres pour attirer du monde. Mmh. Voilà.
Ben nous, on peut contribuer à UTB très modestement à travers des activités de ce type-là, si vous voulez. On a besoin de diffuser la culture historique de la région pour aller même jusqu'à la Bourgogne. Donc, très modestement, on a édité un certain nombre d'ouvrages et qui sont, semble-t-il, originaux par rapport à ce qui a pu être fait dans d'autres lieux. Donc, l'UTB, elle vit sa vie aussi. Nous aussi, nous sommes une entreprise. Quelquefois, ça choque certains de nos adhérents, mais je rappelle que nous n'avons pas de subvention monétaire des pouvoirs publics depuis que nous existons, sauf ponctuellement pour des manifestations exceptionnelles. Nous avons des subventions en nature par la gratuité des salles qui sont mises à notre disposition, qui est une subvention tout à fait substantielle, valorisée. Donc on remercie, ça me donne l'occasion d'en remettre une couche, on remercie comme toujours les pouvoirs publics, mais nous avons une obligation d'équilibre financier et même de générer des excédents et non pas des bénéfices pour investir. J'utilise sans arrêt le mot investir à l'UTB. Ça trouble certaines personnes. Ben nous investissons.
Parfait.
Voilà, nous avons un plan d'investissement, nous avons des amortissements, nous travaillons comme une entreprise. Voilà. Et pour le moment, ça va pas si mal que ça. Hein, voilà.
Puisque vous parliez tourisme, je vais quand même vous donner un scoop. Actuellement, on travaille sur le cloître. Si vous voyez la beauté du cloître, c'est magnifique. Et là, on est en train de travailler dessus. Bon, il ne sera pas ouvert tout de suite, mais on est en train de refaire entièrement le cloître. Et je pense que touristiquement parlant, ça va quand même marquer quand on va l'ouvrir. Et alors, Gilles serait là, le maire de Chalon serait là, il vous dirait que Chalon aurait dû avoir les hospices qui sont à Beaune, mais hélas, on n'a pas les hospices. Mais on aura le cloître avec la cathédrale qui devrait quand même... on va travailler après sur l'intérieur de la cathédrale, on va déjà finir le...
Bien, y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Oui.
Allez-y.
Pensez-vous qu'il soit possible d'installer enfin des cafés sur les quais de Saône pour boire un coup? Ça manque terriblement.
Alors, c'est une excellente question parce que c'est une réflexion qu'on a. Aujourd'hui, il était prévu de faire l'aménagement des quais de Saône. Vous connaissez le problème de la ville de Chalon aujourd'hui en tant que finance. On a des finances qui sont au plus bas. Il faut qu'on fasse des économies. Donc là, actuellement, on est en train de revoir les quais de Saint-Côme, mais avec le moins de dépenses possible. En ce qui concerne les cafés, il y a un café d'ailleurs qui va bientôt ouvrir, qui se trouve à l'angle des quais et de la place du Châtelet, qui va s'ouvrir en bouchon. Bouchon, tout le monde sait ce que c'est qu'un bouchon. Hein, on en trouve beaucoup à Lyon. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de dire on veut des cafés. C'est que vous savez que... Non, et puis vous savez qu'un café ne s'ouvre qu'avec une licence. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de licence puisque tous les cafés qu'on fermait, les licences ont été supprimées. Donc, et maintenant, les licences ne se transportent plus facilement. Alors, c'est un réel problème. Mais c'est vrai qu'on est en train de regarder. Ça fait partie des axes où l'on réfléchit. Mais c'est une très bonne idée parce que pendant trop d'années, les Chalonnais ont tourné le dos à la Saône. Aujourd'hui, il faut regarder la Saône. Dernièrement, j'étais avec le maire, justement, quai Saint-Côme. Et on a découvert, c'est quand même incroyable parce que ça existe depuis longtemps, on a découvert une rotonde qui se trouve à peu près en face de l'abattoir. Et vous avez une vue sur toute la Saône en amont qui est magnifique. Et cette rotonde était envahie par des broussailles, par des arbres, par tout un tas de choses. Et ce qui fait que personne ne la connaissait. Donc on est en train de la remettre en valeur. En faisant les quais, on va la remettre en valeur, ce qui permettra aux gens de s'asseoir et d'avoir une très belle vue.
Oui, alors ça, c'est des quais de Saône, des quais de Saône de Chalon. Est-ce que quelqu'un va commencer à s'occuper des quais de Saône de Saint-Rémy ? Parce que
alors,
on est à Chalon et on est à Saint-Rémy, c'est une honte.
Alors, vous êtes en plein dans le sujet, mais je ne veux pas enlever la vedette. Je ne vais pas enlever la vedette à mon ami Eric quand même, parce que c'est lui qui était là pour. Je ne pourrais pas vous répondre à toutes les questions. Concernant les quais, là, vous êtes en plein dans le sujet, puisque hier encore, on était en réunion, ce qu'on appelle le PLUI, avec les différents maires de l'agglomération. Et on parlait de ces fameux quais de Saône à Saint-Rémy qui sont une problématique. Il faut savoir que la STEF, alors c'est un scoop aussi que je vous donne puisque ça vient de se savoir, la STEF est à vendre puisque les propriétaires ne feront rien dessus. Pardon ? On ne fait plus d'hôtel parce que le propriétaire, celui qui avait acheté, est décédé. Et c'est son fils qui avait repris et donc il a décidé de ne pas continuer. On a l'ancien domaine Fraissinet qui aujourd'hui appartient à une société qui n'appartient pas du tout à la localité, à la collectivité, pardon. Donc là aussi, on est en train de réfléchir pour trouver un repreneur, voir exactement. On est là pour aider les gens à reprendre. On n'est pas là pour tout racheter, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion qui est faite sur cette entrée. Oh, bah, je suis complètement d'accord avec vous sur cette entrée de Chalon.
Ah ouais.
Vous savez, je dis souvent, quand vous allez chez quelqu'un, si le tapis brosse est sale et puis que la porte est pas bien peinte, on a du mal à rentrer. Hein.
Bon, on parle du développement économique. Hein. Alors, on fera une conférence sur le tourisme quand les réflexions seront en avance. Et bien sûr, on invitera le maire, bien sûr. Mais on l'invite tout le temps. On n'arrête pas de l'inviter. Ça fait quand même 10 ans qu'il nous fait une conférence tous les ans, très régulièrement. Hein? Ok. Donc, y a-t-il d'autres questions ? Parce que je sens que elles sont nombreuses. Oui, tu veux... Le financement. Le financement des sociétés.
Ah. Alors, le financement pour une société... Si je prends le cas, je prends le cas de Escoffier, hein, parce qu'il y a beaucoup de sortes de financements. Donc aussi maintenant ce qu'on appelle des financements participatifs ou du crowdfunding, c'est les financements qui sont faits par des communautés. Mais aujourd'hui, il y a une banque qui s'appelle la Banque publique d'investissement, la BPI, qui est là pour aider au financement et ont besoin en financement des petites et parfois même des grandes entreprises. Enfin, madame. Donc voilà, le problème aujourd'hui pour les banquiers, Alors, je vais être sympa avec eux pour un coup, c'est rare. C'est pas qu'ils n'ont pas d'argent à prêter, c'est qu'ils n'ont pas de bons projets. En fait, ça manque aujourd'hui de projets. Et puis surtout, alors ça manque de projets parce que les entrepreneurs eux-mêmes, ils sont un peu bloqués dans tout ce qui touche autour de l'initiative. Parce que l'économie, elle fonctionne lorsque la confiance est là. Lorsqu'il existe une confiance. On a parlé d'entreprise, on a parlé de sport, on a parlé plein de choses. Quand vous êtes dans la confiance amène le succès. Et l'économie, c'est pareil. L'économie, c'est pas beaucoup de choses. C'est que le système, il est confiance. Demain, moi, j'ai confiance en l'avenir. Je vais investir en une machine. J'investis en une machine, je vais embaucher. Je vais embaucher et la personne va consommer. Et puis, la machine que j'ai achetée va faire tourner une autre usine. Vous voyez, dans le phénomène de la confiance. Donc, il faut être capable de réinstaller ça. Et malheureusement, le problème qu'on vit dans notre pays, c'est que la confiance, elle n'existe pas pour plusieurs raisons. Une première, c'est tout ce qui touche autour du code du travail et la difficulté de la gestion des salariés. Quand demain, je vais développer Escoffier, j'espère que ça va marcher. Mais si j'embauche quelqu'un et que j'ai une baisse d'activité, la personne, je ne sais plus l'utiliser. Donc, ce qui va se faire, c'est que je ne vais pas embaucher. Et je vais donc pas développer. Donc ce qu'il faut, c'est remettre un peu d'huile dans les rouages et simplifier tout ce qui touche autour du code du travail. Le code du travail, c'est 3500 pages. 3500 pages. Et sur les 10 dernières années, sur les 3500 pages, il y a eu 2500 pages nouvelles. Alors il y en a qui ont été retirées, mais il y en a d'autres qui ont été rajoutées. Et je défie quiconque de savoir ce qu'il y a dans 3500 pages d'un code du travail. Le code du travail en Suisse, c'est 38 pages. Voilà, pour vous dire. Et on arrive à des niveaux de sclérose où finalement la surprotection ne protège plus, puisque quand un entrepreneur va embaucher, s'il n'a pas foi en l'avenir, au mieux, il embauchera en CDD. C'est-à-dire, il va embaucher quelqu'un à durée déterminée. Et c'est ce qui est d'ailleurs un des freins pour la jeunesse pour entrer dans la vie active, parce que le jeune qui n'a qu'un CDD, il va pas avoir accès au régime bancaire, il va pas pouvoir acheter de voiture, donc ça va scléroser. Donc il y a une première chose, redonner la confiance. Redonner la confiance, pour ça, il faut simplifier les aspects administratifs. Et puis d'autre part, simplifier la fiscalité des entreprises. Aujourd'hui, il existe, alors vous allez entendre parler de beaucoup de choses, des aides sur crédit d'impôt recherche, crédit impôt compétitivité, crédit impôt innovation, crédit impôt famille, crédit impôt export, crédit impôt partout. Il faut savoir que dès que vous demandez un crédit d'impôt, vous avez derrière un contrôle fiscal. Si vous en voulez un, faites ça. Vous dites, tiens, je vois un contrôle fiscal. Moi, j'en ai pas eu. Je vais faire un petit crédit d'impôt. Faites un crédit d'impôt, derrière, contrôle fiscal. Et un coup sur deux, il est retoqué. Ce qui veut dire que les crédits d'impôt qui sont à destination d'aider les entreprises, finalement les entreprises, elles n'utilisent pas parce que si jamais je prends un crédit d'impôt, je vais me prendre un contrôle fiscal. Pas que j'ai quelque chose à me reprocher, mais pas besoin de ça de toute façon pour avoir des ennuis. Donc, le problème de la fiscalité sclérose aussi le monde de l'entreprise. On ferait mieux plutôt que d'avoir des crédits d'impôt dans tous les sens, ne donner aucune aide aux entreprises, mais baisser les charges sociales sur les salaires. Si vous baissez les charges sociales sur les salaires, vous allez avoir, ça va vous amener deux leviers. Le premier, c'est en baissant les charges sociales, vous allez augmenter les salaires, donc vous allez augmenter le pouvoir d'achat. Et puis d'autre part, si vous baissez les charges sociales, vous allez réduire votre taux horaire et vous allez améliorer la compétitivité de votre entreprise. Donc tout simplement, les milliards qui sont mis en crédit, d'aide, de machin, plutôt que de les utiliser de manière sulfureuse. Alors, si vous prenez le cas des crédits d'impôt recherche, là, je vais pratiquement faire une caricature. Mais aujourd'hui, la plupart des entreprises qui utilisent les aides financières sont des grandes entreprises, parce qu'elles ont la connaissance de la fiscalité et du juridique que les petites entreprises n'ont pas. 90%, excusez bien, 90% des aides aux entreprises sont à destination pratiquement de ce qu'on appelle la sphère des entreprises du CAC 40. Toutes les grosses entreprises qui bénéficient de ça. Est-ce qu'il y a même quelque chose, et là, alors, je peux le dire encore plus facilement en tant qu'ancien président du MEDEF, c'est que toute cette aide qui est donnée à des grandes entreprises à travers des crédits d'impôt recherche qu'ils savent très bien utiliser, c'est des dividendes qui sont distribués à des actionnaires qui sont même pas des actionnaires français, qui sont des fonds de pension. Alors quand vous regardez la mécanique du truc, c'est-à-dire vous allez plomber à travers une fiscalité, les PME
et les Français, mais en général, pour apporter des souplesses financières à des entreprises qui sont des fonds de pension américains la plupart du temps. Alors là, il faudrait faire... Mais c'est catastrophique. On ferait mieux de simplifier tout ça et de descendre les charges sociales. Si vous descendez les charges sociales, vous améliorez le salaire net du salarié. Donc, améliorant le salaire net, vous améliorez son pouvoir d'achat, donc la consommation. Et si vous améliorez, vous baissez les charges sociales, vous baissez de manière sensible le taux horaire, et vous le verrez chez Escoffier, le taux horaire est important, et donc vous baissant le taux horaire, vous replacez dans la compétitivité. C'est des fois des mécanismes comme ça. Un mécanisme qui est en train d'inverser et remettre une dynamique économique à l'export, c'est la parité euro-dollar. La parité qui est en train de changer. C'est-à-dire, avant, c'était 1 euro, 1,25 $. Maintenant, c'est pratiquement 1 dollar, 1 euro. Sauf que maintenant, quand Escoffier vend une machine en Chine aux États-Unis, c'est 25% moins cher. Paf, ça nous replace dans la concurrence. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment des phénomènes économiques et des phénomènes macroéconomiques qu'il faut tenir en compte.
Il y a quand même le problème des actionnaires français par rapport, qui ont complètement diminué depuis des années. Et c'est des fonds de pension qui achètent des entreprises.
Alors voilà, ça c'est propre à la France. Hein. Voilà. C'est des fonds de pension qui achètent des entreprises françaises.
Des fonds de pension des enseignants californiens.
Les entreprises appartiennent à certaines tailles.
Merci, monsieur Lefebvre. À nouveau, merci.
À lundi.
Ah oui, on va pas rater.
Au revoir. Au revoir. Bon. Je crois que c'est très intéressant. On va en rester là. On va remercier Monsieur Michou d'avoir consacré 2 heures à discuter avec nous. C'était sympa et tout et tout. Merci. Donc on l'invitera encore parce qu'il a des tas de choses à dire. Donc merci encore. Applaudissez-le bien fort.
Merci à tous.